France Inter.
Voici le 13-14, Céline Asselot.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire du 13-14. Vladimir Poutine et Xi Jinping côte à côte qui se présentent en défenseurs de l'ordre mondial. C'est l'image forte du jour. On ira dans un instant à Moscou où le dirigeant chinois est arrivé ce matin. Soutien de poids pour un président russe qui tente de combattre son isolement diplomatique. On prendra aussi la direction du Vatican où l'on a aperçu la fumée tout à l'heure. Mais elle est encore noire. Les cardinaux n'ont toujours pas réussi à se mettre d'accord sur le nom du futur pape. Et les fidèles, vous allez l'entendre, patientent toujours sur la place Saint-Pierre. On parlera aussi de la Terre qui se réchauffe encore et toujours. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
L'Observatoire européen Copernicus vient de publier le bilan du mois d'avril.
Oui, c'est le deuxième mois d'avril le plus chaud jamais mesuré après avril 2024. Un début de printemps marqué par des vagues de chaleur au Moyen-Orient et en Asie.
Merci Sandy, je vous dis à tout à l'heure pour plus de précisions sur ce sujet. L'actualité, c'est aussi ce nouveau dépistage mis en place pour les nouveau-né contre trois maladies rares, le PSG qui se prépare déjà pour la finale de la Ligue des Champions, et puis la grève à la SNCF, ou plutôt devrait-on dire les grèves, celle qui a lieu en ce moment et puis celle qui se profile pour le mois de juin. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
C'est la CGT Cheminot qui appelle à trois journées de mobilisation.
Oui, les 4, 5 et 11 juin prochains, en semaine, cette fois-ci hors des jours fériés et des ponts, des dates non choisies au hasard puisqu'elles correspondent à des journées de négociations proposées par la direction.
À tout à l'heure Maxime Debs, à 13h30 on parle de Vinted. La plateforme de seconde main est désormais le premier distributeur de vêtements en France. Vous faites peut-être partie de ces 23 millions d'utilisateurs français. Les raisons du succès, l'impact sur le secteur du prêt-à-porter, on en parle avec nos invités et puis avec vos questions. 01 45 24 7000. Voilà pour le programme. C'est parti pour le 13-14.
France Inter.
Les fresques du jugement dernier, les scènes bibliques de Michel-Ange ne semblent pas donner suffisamment d'inspiration, en tout cas pour le moment, aux 133 cardinaux électeurs. Le suspense se poursuit dans la chapelle Sixtine fermée à double tour. De nouveaux tours de scrutin ont lieu ce matin et comme hier soir, eh bien c'est de la fumée noire qui est sortie de la cheminée. Bonjour Cécile Bidot.
Bonjour.
Vous êtes en direct du Vatican. Vous avez vu cette fumée tout à l'heure un peu avant midi.
Oui, il était à peu près 11h50-55 et on a entendu une clameur bien plus timide que celle d'hier soir montée de la place Saint-Pierre et elle est vite redescendue. On a senti la déception dans les sons émis par les fidèles plutôt « oh » que « ah » pendant que les fumerolles noires continuaient à teinter le ciel romain. Beaucoup y sont allés de leurs selfies pour immortaliser quand même ce moment en posant avec comme décor la basilique, la chapelle Sixtine et sa cheminée qui fume tout au fond. Et puis en quelques minutes, la place Saint-Pierre s'est vidée puisque tout le monde sait qu'il ne se passera plus rien avant la fin d'après-midi. Les cardinaux électeurs sont sortis de la chapelle Sixtine pour retourner à la résidence Sainte-Marthe. L'heure du déjeuner, on le sait, est toujours propice aux discussions, aux tractations. Ils reviendront tout à l'heure à 16h pour le quatrième tour de vote. Si le pape est élu à ce moment-là, il y aura la fumée blanche. Sinon, il faudra attendre le cinquième tour ce soir pour voir une nouvelle fumée.
Merci Cécile Bidot, on suivra ça bien sûr avec vous et toute l'équipe de France Inter en direct du Vatican où l'on se prépare donc à de nouvelles heures d'attente. C'est le cas par exemple de ces deux Lyonnais, Milan et Julien, que vous avez rencontré Cécile Place Saint-Pierre.
On est en place, tout le monde regarde une cheminée qui doit faire au bas mot au maximum 1 mètre de hauteur avec plein d'écrans.
C'est un peu une fan zone géante pour une cheminée d'un mètre quoi. Disons que j'ai pas l'habitude d'avoir une cheminée sur des écrans géants, mais on apprécie le spectacle, on va dire. C'est la première fois qu'on souhaite une bonne fumée, donc on va voir ce que ça donne.
Bon, donc bonne fumée.
Eh ben merci beaucoup.
Voilà la fan zone du Vatican. Alors on ne connaît pas encore le nom de ce futur pape, mais on confectionne déjà son habit, celui qu'il portera lorsqu'il se présentera aux fidèles à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et c'est dans une boutique romaine que tout se prépare. Bruno Duvic nous y emmène.
Sur le comptoir de sa boutique, pleine de calices, de mitres et d'aubes en tout genre, il présente devant vous les rouleaux de tissu blanc.
C'est de la laine légère. Je prévois trois tailles, petite, moyenne et grande.
Il, c'est Raniero Mancinelli, tailleur spécialisé dans les vêtements ecclésiastiques tout près du Vatican depuis 70 ans. Il en a 86.
Ça, c'est la cape qui ira sur l'aube.
Trois papes à son actif, mais c'est la première fois qu'il fabrique la tenue de l'abémus papam. Il nous emmène dans la minuscule arrière-boutique où tout menace de s'effondrer.
Oh, oh,
et où une autre partie de l'ensemble est en préparation.
Les manches.
Un vieil artisan sur sa machine, le maître de couturier autour du cou, prépare une image que l'on verra en mondovision.
Bien sûr que je suis impatient de voir si tout va bien. La ceinture, la calotte, le col, tous ces détails.
Quand on est passé le voir, on était à 5 jours du conclave, en retard.
J'espère bien que non, je n'ai pas le choix.
Mardi soir, les aubes de Raniero attendaient le futur pape à côté de la chapelle Sixtine, surimportant. Prête.
Voilà, tout est prêt. Reportage signé. Bruno Duvic, ne reste plus qu'à se mettre d'accord. Et on retrouvera Fabienne Sintès et toute l'équipe de France Inter à Rome ce soir au cours du 18-20. C'est le genre d'événement où la liste des invités a presque plus d'importance que les festivités en elles-mêmes. Qui va faire le déplacement à Moscou pour célébrer les 80 ans de la capitulation nazie? Demain, comme tous les ans, la Russie organise sa traditionnelle parade militaire. Et malgré l'isolement diplomatique du Kremlin, une trentaine de dirigeants devraient faire le déplacement. Alors, on peut citer le Premier ministre slovaque, Robert Fico, seul représentant de l'Union européenne, le président brésilien Lula, qui ambitionne de jouer un rôle de médiateur dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Mais l'invité de marque, celui qui était le plus attendu, c'est le dirigeant chinois Xi Jinping, qui est arrivé ce matin. Jean-Didier Revoin, vous êtes à Moscou, et c'est un soutien de poids pour Vladimir Poutine.
Moscou et Pékin présentent un front uni contre ce qu'ils appellent l'hégémonie occidentale. Et pour l'illustrer, des soldats chinois défileront demain sur la place rouge. Vladimir Poutine l'a souligné au début de sa rencontre avec Xi. Au vu des tensions géopolitiques actuelles, la relation de politique étrangère russo-chinoise constitue un facteur vital et stabilisateur sur la scène internationale. La Russie et la Chine ont en effet signé un partenariat stratégique qui fait dire à certains que Pékin aide Moscou à acquérir les composants technologiques nécessaires à sa production d'armement pour son offensive en Ukraine. De son côté, le président chinois s'est dit très heureux de participer aux célébrations de la victoire, ajoutant que Pékin était prêt à défendre la vérité sur la Deuxième Guerre mondiale aux côtés de la Russie. Au terme de leur rencontre, les deux hommes adopteront 2 déclarations communes, l'une sur leurs relations bilatérales et l'autre sur la stabilité stratégique mondiale. De sources diplomatiques, on sait encore que les deux hommes aborderont la relation de Moscou avec Washington, à l'heure où l'administration Trump a entamé une guerre commerciale avec la Chine en particulier. Moscou, Jean-Didier Revoin, France Inter.
Et à l'occasion de ces commémorations, la Russie avait décrété une trêve de 3 jours en Ukraine de manière unilatérale. Mais l'Ukraine assure qu'il y a déjà des violations. Des bombes aériennes guidées ont été lancées dans la nuit, selon Kiev, qui accuse par ailleurs la Russie d'attaquer sur toute la ligne de front. Alors si Moscou, on l'a dit, fête le 9 mai, la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est bien la date du 8 mai qui a été retenue en Europe. Emmanuel Macron présidera la cérémonie en fin d'après-midi sous l'Arc de Triomphe. D'autres rassemblements, bien sûr, en hommage aux anciens combattants, sont organisés un peu partout en France, notamment à Vénissieux, dans le Rhône, où il a une tonalité, ce rassemblement, tonalité un peu particulière. Bonjour Christophe Vincent.
Bonjour Céline.
Vous êtes sur place, ça se passe devant la mairie de la commune. Hommage organisé par le Régiment Immortel de Lyon, association russe, avec une orientation pro-Poutine à peine voilée, hein.
Oui, certains portent des drapeaux et des médailles. Des jeunes femmes brandissent les portraits de leurs grands-pères qui ont combattu l'Allemagne nazie. Un jeune russe arbore un t-shirt avec le visage de Vladimir Poutine. Elena Plan est porte-parole du Régiment Immortel de Lyon.
C'est la mémoire de nos ancêtres qui étaient à la guerre contre le fascisme. Nous, on présente nos ancêtres. Parce que pour les Russes, c'est la guerre patriotique, la grande guerre patriotique.
Comment vous vous situez par rapport au pouvoir actuel en Russie?
Le peuple russe soutient le Poutine, c'est tout. Et moi aussi.
Des membres du collectif de soutien au peuple ukrainien observent la scène. Nicolas Cousin en conteste le caractère purement mémoriel.
On parle des ancêtres, bon, il y a beaucoup de drapeaux faucilles et marteaux. Bon, faut savoir que c'est sous ce drapeau-là que des dizaines de millions de soviétiques, y compris des Russes, hein, mais aussi des Ukrainiens, des Baltes, ont été massacrés, ont été envoyés dans les camps. Donc déjà, ça, c'est choquant pour ça. Et ensuite, il y a un jeune homme qui arbore un portrait de Poutine, et c'est là où on met le doigt sur ce qui se passe très exactement. L'essentiel de cette mémoire-là est récupéré, instrumentalisé.
La cérémonie s'est achevée sans incident à quelques mètres de la mairie communiste de Vénissieux, pas concernée.
Merci Christophe Vincent, en direct de Vénissieux pour France Inter. Entre l'Inde et le Pakistan, les tensions toujours très fortes au lendemain d'une journée meurtrière, la plus violente même depuis 2 décennies. Hier, des bombardements ont fait 45 morts dans les 2 camps, quasiment tous des civils. Aujourd'hui, le Pakistan accuse l'Inde de mener une attaque de drones sur son territoire. 25 drones fabriqués par Israël et envoyés par l'Inde ont été abattus, dit Islamabad. Ce sera un accord total et complet. Il en annonce bien d'autres. Donald Trump vient d'annoncer sur son réseau social la signature imminente d'un accord commercial avec le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui est donc le premier pays à trouver une entente avec la Maison-Blanche depuis la mise en place des nouvelles barrières douanières.
France Inter, le 13-14. Céline Asselot.
Voilà une annonce qui ne va certainement pas vous ravir si vous avez dû changer vos plans pour le week-end en raison de la grève à la SNCF. La CGT cheminots dévoile d'ores et déjà de nouvelles dates de mobilisation. L'ensemble des salariés appelés à la grève les 4, 5 et 11 juin prochains. Et les voyageurs semblent un peu décontenancés par ce nouvel appel à la grève.
On subit, malgré nous, cette situation. C'est quand même contraignant pour les autres salariés du pays qui sont à la même enseigne et qui cotisent comme eux tous les mois.
On n'est quand même pas dans une période hyper florissante au niveau économique. Autant de recettes en moins pour la SNCF, je trouve que c'est pas du tout une bonne chose. On peut pas puiser indéfiniment dans les caisses. À un moment donné, tout le monde doit y contribuer, nous-mêmes les salariés, de quelle entreprise qu'on soit en fait.
Moi je pense que le droit de grève, c'est un droit essentiel et que ça fait partie des rares secteurs qui arrivent encore à l'exercer. Donc moi plutôt je les soutiens.
Ils n'ont pas beaucoup de moyens pour obtenir ce qu'ils veulent. Hein. Moi, en même temps, je prends pas le train à ce moment-là, alors je suis bien égoïste parce que...
Voilà, témoignage de voyageurs rencontrés à la gare Montparnasse à Paris par Luc Chemla. Alors, Maxime Debs, on vous retrouve. Comment expliquer ce nouveau mouvement alors qu'on est déjà dans une semaine de mobilisation?
Eh bien, parce que la mobilisation, Céline, force est de constater, n'a abouti jusqu'ici à rien et qu'une partie du combat pourrait bien se jouer finalement sur un temps plus long. Les 4 et 11 juin, la direction de la SNCF a fait partir un courrier hier que nous avons pu consulter où elle promet expressément des négociations constructives aux organisations syndicales. Un point positif pour Thierry Nière de la CGT Cheminots qui prend acte de ce premier pas.
Maintenant, on souhaite mettre la pression parce qu'on sait très bien qu'elle ne nous donnera rien gratuitement, donc les cheminots doivent continuer à se mobiliser.
La CGT, premier syndicat à la SNCF, qui propose donc deux nouvelles dates de grève sur ces 4 et 11 juin en semaine, deux mercredis hors des congés, des ponts et autres, de façon à peser sur les négociations tout en limitant au maximum l'impact pour les usagers.
Une grève à la SNCF, elle gênera toujours. Là, en l'occurrence, on a regardé l'éphéméride. Le 4 juin, c'est la Sainte-Clotilde et le 11 juin, c'est la Sainte-Barnabé. Bon, a priori, il n'y a pas de contre-indication à pouvoir porter les exigences des salariés ces jours-là, quoi.
À cela s'ajoute une troisième date, le 5 juin, un jeudi, coché depuis de longues semaines par la centrale de Montreuil sur un tout autre sujet, l'abrogation de la réforme des retraites de façon à permettre aux cheminots de se joindre au cortège ce jour-là.
Précision signée Maxime Dev, service économie de France Inter. La marque Perrier va-t-elle pouvoir continuer à vendre à ses clients une eau minérale naturelle? C'est désormais tout l'enjeu pour l'entreprise. La qualité de son eau dans le viseur des autorités. Bonjour Marie Dupin.
Bonjour Céline.
Plus d'un an après les révélations du journal Le Monde et de Radio France sur le traitement illégal des eaux du groupe Nestlé, l'État a décidé d'agir. Les préfectures du Gard et des Vosges, où se situent les usines d'embouteillage, ont donné 2 mois à l'entreprise pour retirer les filtres de microfiltration dont l'usage est interdit pour les eaux minérales. Nestlé assure qu'une solution technique va être recherchée. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire?
En fait, Céline, il faut comprendre que si Nestlé a installé des filtres interdits dans ses usines, avec l'assentiment du gouvernement, ce n'est pas pour rien. C'est parce que les eaux de ces forages sont polluées. Les puits exploités par Perrier sont tous contaminés par des bactéries et des pesticides. Plusieurs rapports le disent. Ce n'est plus de l'eau minérale naturelle qui, selon la loi, doit être pure à la source. Donc, Nestlé dit qu'elle cherche des solutions techniques, mais aucune technologie ne peut régler un problème de nappe phréatique polluée. Ça, c'est un rapport d'hydrogéologue agréé par le ministère de la Santé qui l'a confirmé récemment. La seule solution, c'est le retrait du label eau minérale naturelle, comme le réclament les autorités sanitaires. La fin de ce label, Céline, c'est la fin de la marque Perrier et Nestlé a maintenant 2 mois pour agir.
Alors, qu'en est-il pour les autres marques de Nestlé, puisque Perrier n'est pas la seule concernée? On pense à Vittel et par Contrex.
Alors, selon Nestlé, Vittel n'est pas concernée par les filtres interdits. En revanche, Contrex et par oui, l'entreprise assure avoir identifié une solution technique pour continuer à produire ces deux marques et attendre la validation des autorités. Mais vous l'avez compris, tout dépend de la qualité des eaux. Si les eaux sont polluées, ce n'est plus de l'eau minérale naturelle. Ce sera la même chose que pour Perrier. J'ai demandé à avoir accès aux derniers résultats de qualité d'eau dans les Vosges, auprès de l'Agence régionale de santé. Je suis toujours en attente de ces résultats. En tout cas, les marques Épar, Contrex et Perrier sont bien aujourd'hui sur la sellette. Et ceux qui sont inquiets, ce sont les salariés, puisque Nestlé emploie environ 500 personnes dans les Vosges et 900 personnes dans le Gard.
Merci Marie Dupin. Je renvoie vers le site franceinter.fr pour plus d'informations sur ce dossier. Dépister plus largement pour traiter tester plus rapidement. Voilà comment on pourrait résumer en quelques mots la décision du ministère de la Santé. À partir du mois de septembre, tous les nouveau-nés pourront bénéficier d'un dépistage de 3 maladies rares, dont l'amyotrophie spinale infantile. On va en parler avec vous, Victor Delande, bonjour.
Bonjour Céline.
Alors, il y a déjà eu des expérimentations, hein, le dépistage est donc élargi à tout le territoire pour permettre une prise en charge précoce des enfants concernés.
Oui, l'idée est de repérer ces maladies rares pour les prendre en charge avant les premiers signes et éviter ou limiter leurs impacts. Une expérimentation avait été lancée en ce sens début 2023 dans deux régions, le Grand Est et la Nouvelle-Aquitaine. En deux ans, 150 000 bébés dépistés directement dans les maternités et 16 cas repérés et traités à temps. C'est le cas de Marley et Milan, deux jumelles nées en Charente-Maritime. Quelques gouttes de sang prélevées au talon à leur naissance a permis de repérer la présence de l'amyotrophie spinale. Elles ont reçu une thérapie génique alors qu'elles n'avaient que 17 jours. Elles ont un peu plus d'un an aujourd'hui et elles vont très bien, comme l'explique leur père Théo au micro de Sophie Becherel.
Aujourd'hui, elles sont en pleine forme. L'évolution est très très bonne. Donc oui, on peut dire qu'elles sont guéries. Après, à voir au long terme, parce qu'on n'a pas énormément de recul non plus. Donc on reste vigilant, mais tout va bien.
Sans ce dépistage et sans ce traitement aussi rapide, ces jumelles auraient connu une dégénérescence neuromusculaire irréversible, comme le confie leur mère, Mégane.
Elles auraient commencé par perdre l'usage de leurs jambes et de leurs membres en général. Et puis, ça aurait pu remonter en effet jusqu'aux poumons ou à tous les muscles qui servent à respirer et à s'alimenter. Donc c'est évidemment, à l'issue, un fauteuil roulant pour se déplacer, une trachéo pour respirer et une sonde alimentaire pour s'alimenter.
Avec l'amyotrophie spinale, deux autres maladies génétiques seront donc désormais dépistées dans toutes les maternités. Des maladies très rares qui touchent un bébé sur 30 000 à la naissance. Depuis 2018, le programme de dépistage s'est progressivement élargi, passant de 5 à 13 maladies et désormais 16, Céline, avec ces trois nouvelles pathologies très lourdes.
Merci Victor Delande, spécialiste santé, la rédaction de France Inter. Et puisque l'on parle de santé, eh bien parlons de cette menace qui pèse sur les systèmes de santé un peu partout dans le monde. Il s'agit du dérèglement climatique et de ses records qui s'enchaînent. Sandy Dauphin, on vous retrouve. Copernicus, le programme européen de surveillance du climat, a donc rendu public le bilan du mois d'avril. Deuxième mois d'avril le plus chaud de l'histoire après celui de 2024, donc l'année dernière. Et les experts s'inquiètent, les deux dernières années ont été les plus chaudes jamais mesurées.
Oui, en avril, les températures sont restées à des niveaux historiquement élevés. Si l'on compare avec ce qu'ont connu nos ancêtres entre 1850 et 1900, la période pré-industrielle qui sert de référence scientifique, eh bien, ce mois d'avril, sur le globe, il a fait en moyenne 1,5 degré de plus. Un mois d'avril marqué par des canicules au Moyen-Orient et en Asie. Robert Votard, climatologue, coprésident du groupe Indugiec.
On a des vagues de chaleur absolument énormes dans le sud-ouest de l'Asie qui vont de l'Iran à l'Inde en particulier, avec des conditions climatiques qui sont terribles pour les gens qui travaillent dehors en particulier. Le réchauffement climatique va à toute vitesse. Hein. Le climat d'une décennie est déjà très différent du climat de la décennie précédente. On a un paysage de changement climatique qui va très vite.
Après les deux années les plus chaudes, les experts s'attendaient à un répit en 2025 parce qu'on passe d'un contexte de phénomène El Niño qui entraîne des conditions plus chaudes sur la planète au phénomène La Niña qui apporte de la fraîcheur. Mais La Niña a finalement été de faible intensité en début d'année.
Merci Sandy Dauphin. Justement, le président de la prochaine COP, la COP 30, qui aura lieu au mois de novembre prochain au Brésil, tente de sensibiliser les participants à ce qu'il a un défi immense. Il espère que le rendez-vous marquera un point d'inflexion dans la lutte contre le changement climatique. C'est un peu l'autre conclave, même si celui-ci s'est tenu très loin de Rome et que les participants se sont séparés sans fumée blanche en Nouvelle-Calédonie. Aucun accord n'a été conclu après trois jours de discussion à Nouméa entre les indépendantistes et les non-indépendantistes sous l'égide de Manuel Valls. Le ministre des Outre-mer espérait une entente sur la question de la composition du corps électoral à l'origine de la flambée de violence l'année dernière. Il avait présenté un projet d'indépendance de la Nouvelle-Calédonie en association avec la France, avec la création notamment d'une double nationalité. Inacceptable pour les loyalistes qui rappellent que trois fois, lors de trois référendums, les Calédoniens ont voté contre l'indépendance. Écoutez, Sonia Baquès, elle est présidente de l'Assemblée de la Province Sud et chef de file des loyalistes.
Les Calédoniens ont voté trois fois. Comment le numéro 3 du gouvernement peut arriver en Nouvelle-Calédonie et dire « Ok, vous avez voté trois fois, mais j'ai décidé quand même de donner l'indépendance à ce territoire parce qu'il y a eu de la violence le 13 mai dernier. » Quel est le message qui est envoyé aux Français, aux Calédoniens d'abord en premier temps, mais aussi aux autres territoires d'outre-mer? On donne l'indépendance à un territoire qui a décidé par trois fois de rester français. Le ministre a essayé de nous tordre le bras à nous en pensant qu'on allait pouvoir se rallier à ce projet-là en disant publiquement avant le début des négos « c'est l'accord ou le chaos ». Et je pense que vraiment, il y avait un chemin possible qui était étroit, hein, personne ne se leurrait sur la difficulté de l'exercice, mais vraiment, il a gâché cette chance-là en faisant un choix qui était celui de dire « je considère que c'est le sens de l'histoire, donc bah, il vaut mieux donner l'indépendance maintenant ».
Sonia Bacca, chef de file des loyalistes en Nouvelle-Calédonie, au micro de Timur Özturk. Un lycée à l'arrêt dans le Var et un personnel qui proteste contre la réintégration de deux élèves exclus de l'établissement. Vous vous souvenez peut-être de cette mobilisation dont on vous parlait lundi dans le 13-14 et qui connaît aujourd'hui de nouveaux rebondissements. Bonjour Sonia Princé.
Bonjour.
Ça se passe donc au lycée du Golfe de Saint-Tropez dans la commune de Gassin. Deux élèves sanctionnés pour harcèlement et réintégrés aux grandes dames des professeurs. Et l'affaire ne s'arrête pas là.
Non, le proviseur du lycée du Golfe a transmis à la rectrice de Nice mardi après-midi de nouveaux éléments faisant état ces derniers jours d'un comportement totalement inapproprié des deux élèves mis en cause pour des faits de harcèlement. Ces jeunes savaient pourtant qu'ils avaient obtenu un sursis en commission d'appel suite au conseil de discipline qui les avait exclus. Ils avaient été réintégrés dans leur lycée à condition de rester irréprochables, mais ils n'ont pas saisi leur chance. Le rectorat ne souhaite pas rentrer dans le détail des faits tant que les familles de ces deux élèves ne sont pas informés. Elles seront reçues dès demain par le chef d'établissement en présence de l'inspecteur d'académie et du chef du pôle anti-harcèlement. La rectrice a demandé au proviseur d'organiser sans attendre un nouveau conseil de discipline. Elle affirme d'ores et déjà dans un communiqué que ces élèves n'ont plus vocation à être accueillis dans le lycée. Une représentante des professeurs nous a confié le soulagement de l'équipe des personnels d'être enfin entendus et soutenus. Ces élèves de seconde qui ont 15 et 16 ans seront rescolarisés dans un autre établissement.
Sonia Princé, spécialiste éducation. Une soirée de fête sur les Champs-Élysées, mais un bilan qui donne beaucoup moins envie de se réjouir. Hier soir, le PSG s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions en battant Arsenal de 2-1. On va revenir sur cet exploit sportif, mais intéressons-nous d'abord à ce qui s'est passé après le match avec vous, Sarah Guibaudot. Bonjour.
Bonjour.
Il y a eu 47 interpellations et puis 3 blessés aussi quand une voiture a percuté plusieurs piétons.
Oui, alors que des supporters affluaient après le match près des Champs-Élysées, un peu après minuit, une voiture qui débouchait d'une rue perpendiculaire a fauché plusieurs personnes pour une raison qui reste à déterminer. Un mineur est hospitalisé avec un pronostic vital engagé. La voiture s'est retrouvée bloquée par la foule et a été incendiée. Le conducteur a pris la fuite à pied avec son passager. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour violence avec arme, l'arme étant la voiture, délit de fuite et non-assistance à personne en danger. Par ailleurs, dans la nuit, la préfecture de police de Paris affirme que plusieurs groupes se sont formés pour commettre des dégradations et jeter des projectiles sur les policiers. 44 personnes sont toujours en garde à vue ce midi. Quelques échauffourées signalées aussi en Essonne, Viry-Châtillon, Sainte-Geneviève-des-Bois, Chilly-Mazarin, dans le Val-d'Oise, Villiers-le-Bel, Goussainville, Aubonne ou à Fontainebleau où près de 500 supporters se sont rassemblés en centre-ville. À chaque fois, les forces de l'ordre ont essuyé des tirs de mortier et répliqué à coups de grenades lacrymogènes sans blessés signalés.
Voilà, les célébrations ont été un peu gâchées. Merci Sarah Guibaudot, mais la joie des supporters reste immense. Le PSG va donc participer à la finale de la Ligue des Champions. Le club rêve de ce trophée depuis bien des années. Et tout va se jouer le 31 mai prochain à Munich. Ce sera face à l'Inter Milan qui a éliminé le FC Barcelone. Et dès hier soir, on sentait bien, Xavier Monferrand, que tout le monde pensait déjà à cette finale.
Malgré la liesse du Parc des Princes, en tribune, à la sortie du stade, la joie des supporters, les sourires des joueurs, la communion sur la pelouse, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, est venu au micro rappeler l'essentiel, quitte à jouer les troubles faits.
Je suis très très fier de vous, parce qu'on a montré, on est une grande équipe, si on veut gagner contre n'importe un pot, l'ambiance est magnifique, mais je veux dire une chose très 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 importante, On n'a pas fini.
Car Paris est en finale une deuxième fois en 5 ans, mais n'a pas encore soulevé la coupe aux grandes oreilles. Il faudra battre l'Inter Milan de Marcus Thuram et Benjamin Pavard. L'Inter que le latéral marocain du PSG Achraf Hakimi a hâte de retrouver.
C'est un moment, je pense, spécial de jouer en finale contre une équipe qui a à mon cœur. J'ai passé des moments très bons avec Inter et je suis content de voir mes anciens coéquipiers. Maintenant, je devais rester concentré pour Paris et travailler pour Paris pour ramener un chose que je voulais ramener depuis longtemps.
Mais avant, le PSG a rendez-vous avec une autre finale, celle de la Coupe de France face à Reims le 24 mai, une semaine tout juste avant celle de Munich.
Voilà la finale PSG-Inter Milan, ce sera donc le 31 mai à Munich. Et puis, c'est peut-être une idée de sortie pour ce week-end du 8 mai un peu nuageux. Le centre Pompidou-Metz fête ses 15 ans et reçoit à cette occasion une partie des collections de son grand frère parisien, puisque Beaubourg va être en travaux jusqu'en 2030. Et c'est un artiste italien habitué des controverses qui a conçu l'accrochage. Maurizio Cattelan fait dialoguer les œuvres du centre Pompidou de Delaunay à Miro dans une exposition qui ouvre ses portes aujourd'hui. Visite guidée avec Julien Baldacchino.
De sa fameuse banane scotchée à un mur à des œuvres moins connues, l'univers de Maurizio Cattelan se déploie dans cette expo avec tous ses paradoxes, tantôt géants, tantôt minuscules, tantôt chocs, tantôt intimes. Chiara Parisi est la directrice du centre Pompidou-Metz.
Chaque fois, Maurizio Cattelan, il parle de toi, il parle de nous. Il parle de ta tendresse, de ta malincolie, mais toujours de façon troublante. Quelquefois, l'œuvre est tellement empathique, donc on a une sorte de recul, on a comme un bong, mais en effet, elle est profondément juste parce qu'elle traite des sujets qui sont universels.
Cattelan, connu pour sa discrétion, répondu à l'invitation du musée en proposant ce dialogue avec d'autres œuvres, explique son galeriste historique Emmanuel Perrotin.
Il fait assez peu de rétrospectives, il cherche toujours un peu une pirouette pour éviter l'exposition traditionnelle. C'est passionnant de voir le choix qu'il fait.
Les surprises sont donc aussi dans le choix des œuvres de la collection présentées, dont beaucoup de pièces méconnues. Anne Horvath est l'une des commissaires.
On a l'habitude de voir toujours les mêmes pièces, ces pièces iconiques dont on ne se lasse pas. Il y a aussi des pièces dont on ne soupçonne pas la présence dans la collection. Et donc, l'idée de l'exposition, c'était de créer un équilibre entre ces pièces attendues et puis ces œuvres qu'on a moins l'habitude de voir.
L'exposition joue avec ses spectateurs jusqu'à l'extérieur du bâtiment où une œuvre aussi est cachée dans les jardins.
Voilà donc pour cette exposition à découvrir au centre Pompidou-Metz. 13h27 sur France Inter. Restez avec nous à suivre dans la prochaine demi-heure. On va retrouver les prévisions météo d'Olivier Proust pour voir ce que cette fin de semaine nous réserve. On va ensuite parler d'un succès bien français, celui de Vinted. La plateforme de vente de seconde main entre particuliers est désormais le premier distributeur de vêtements en France. 23 millions d'utilisateurs dans notre pays. Alors comment expliquer un tel engouement? Est-ce que c'est aussi écolo que ne le dit la plateforme? Question posée à nos invités, Diane Blanchard de l'Observatoire de la Société de la Consommation, Jérôme Fourquet de l'IFOP. Et on attend bien sûr vos questions, vos témoignages. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter. À suivre aussi le nouvel épisode de notre feuilleton, La Nouvelle Vie de l'ancien député communiste André Chassaigne. On part aujourd'hui à Ambert dans le Puy-de-Dôme avec Claire Flochel. 13h50, c'est la France. Bonjour Marie-Luce Ribaud.
Bonjour Céline.
Du quotidien Sud-Ouest, alors c'est le début d'un pont de 4 jours pour les plus chanceux d'entre nous et c'est l'occasion peut-être de se mettre au fourneau.
C'est pour cette raison, Céline, que je vais vous proposer une série de recettes sucrées, toutes plus régressives les unes que les autres.
À tout à l'heure et bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Céline.
Qui est à votre micro aujourd'hui.
Il y aura du sucré aussi. Nous irons à la rencontre de l'humoriste et chroniqueuse Morgane Cadignan. Elle donne en ce moment son seul en scène à la Comédie de Paris et avec elle, c'est la voix de Petula Clark que nous écouterons avec une chanson très belle et pleine de mélancolie. La nuit n'en finit plus.
Voilà pour ce programme alléchant. Je vous dis à tout à l'heure.
France Inter présente
Les aventures de Toudou, un podcast à écouter avec les enfants de 2 à 4 ans.
Zoé Varier.
Toudou est à la piscine. Il s'amuse à éclabousser les autres enfants. À la maison, Toudou a encore fait une bêtise. Il a fait la vaisselle, mais je crois bien qu'il a oublié de fermer le robinet d'eau. Quel coquin ce Toudou! Un moment Toudou à partager sans écran.
Les aventures de Toudou.
À écouter sur franceinter.fr et l'application Radio France.
Avec France Inter, un podcast par jour, des acquis pour toujours.
13h29, la météo.
La météo avec le baume Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Bonjour Olivier Proust.
Bonjour.
Alors il paraît que c'est le printemps, le ciel aussi bourgeonne.
Et les nuages prennent de l'ampleur cet après-midi. Ils délivrent quelques petites averses. Elles sont un peu plus fréquentes du Massif central vers le Limousin jusqu'en Aquitaine, sur les Pyrénées et aux abords du relief dans l'Est, depuis le Jura jusqu'en Haute-Provence ainsi qu'en Corse. Ces averses vont parfois jusqu'à l'orage dans l'Est des Pyrénées, dans le Massif central et dans le Sud des Alpes et donnent de la neige en montagne au-dessus de 2000 à 2200 mètres. Un temps sec sous des éclaircies plus généreuses s'étend progressivement de la Belgique vers la Seine, sous un vent encore sensible de nord-est. Les températures sont en hausse, proche des normales de saison, avec 14 à 16 degrés encore près de la Manche, mais 18 à Rennes ou à Strasbourg, 19 à Montpellier, à Orléans ou à Lyon, 20 à Bordeaux et Toulouse et 21 à Perpignan et Ajaccio. Demain, le vent se renforce et s'oriente à l'est dans le nord. Il entreviendra de larges éclaircies depuis les côtes de la Manche jusqu'à l'Alsace. Ailleurs, le ciel sera plus nuageux, avec quelques averses assez fréquentes et parfois orageuses dans le sud-est et sur le relief.
Merci Olivier Proust de Météo France.
France Inter, le 13-14. Céline Asselot.
Il y a un temps pas si lointain où acheter un vêtement, ça signifiait entrer dans un magasin, discuter avec un vendeur, repartir avec un sac. Alors on va évidemment pas dire que c'est de l'histoire ancienne, mais pour beaucoup d'entre nous, d'entre vous, aujourd'hui, acheter un vêtement, eh bien c'est scroller sur son téléphone, marchander avec un particulier et aller chercher un colis emballé parfois de façon un peu artisanale au magasin de téléphonie mobile situé au bas de la rue. Bref, nos habitudes de consommation ont changé, tout particulièrement depuis 2013 et le lancement en France de Vinted, la plateforme basée en Lituanie qui fait un carton dans notre pays. C'est désormais, selon le baromètre de l'Institut français de la mode, le premier distributeur de vêtements en France. Il suffit de se balader avec son micro en main dans Paris pour trouver des fans de Vinted. Écoutez.
On est très utilisateurs de Vinted pour Micha qui a 3 mois, sachant que de toute façon les bébés grandissent très très rapidement. C'est beaucoup moins cher et puis aussi nous on aime le fait que ce soit un vêtement qui a déjà été porté, notamment pour la dimension écologique.
Aussi il y a ce truc où je trouve des pièces que je trouve pas ailleurs. C'est des marques que je connais pas en tout cas, qui étaient présentes beaucoup plus avant moi. Puis souvent elles ont une meilleure composition et genre du 100% coton, etc. Moins des choses synthétiques et puis du coup j'ai des vêtements de qualité et à des prix qui dépassent rarement 5€ quoi.
Dans tous les habits, j'essaye de regarder d'abord sur Vinted. Là, récemment, j'ai regardé pour une paire de chaussures, beaucoup moins chère, neuve, complètement jamais portée.
Là, la dernière fois, j'ai acheté une paire de chaussures et elles sont arrivées décapitées, immétables.
Et est-ce que vous vendez sur Vinted aussi ?
Oui, je vends beaucoup et ça, pour le coup, ça marche super bien. À chaque fois, je mets un vêtement dans les 3 jours qui suivent, ils partent. Il y a peut-être un mois, je me suis fait presque 90€ en vendant sur Vinted, donc ce qui est plutôt pas mal.
Voilà, témoignage de vendeurs et d'acheteurs recueillis par Maria Melkurdi. Alors comment expliquer le succès ? On va en parler avec nos invités. Bonjour Diane Blanchard.
Bonjour.
Vous êtes chargée d'études à l'Obsoco, l'Observatoire de la Société de la Consommation. Et bonjour Jérôme Fourquet.
Bonjour.
Vous êtes vous directeur de l'IFOP, l'Institut français d'opinion publique, et vous avez fait paraître au mois de mars dernier une étude appelée l'achat des vêtements et l'accès à la mode. Alors peut-être un mot déjà sur le public. On a entendu dans les témoignages qu'il y a un instant qu'il y a des hommes, qu'il y a des femmes, qu'il semble y avoir des utilisateurs de tous les âges. Diane Blanchard, peut-être qu'est-ce qu'on sait un peu le profil de l'utilisateur de Vinted en France aujourd'hui ?
Alors ce que je dirais déjà, c'est que c'est difficile à dire puisque ça concerne aujourd'hui tout le monde et c'est bien ce qui fait le succès de la plateforme. Et ça peut justement amener des personnes qui sont assez modestes et qui se restreignent beaucoup sur leurs dépenses d'habillement à se faire plaisir. Mais ça peut aussi plaire à des personnes qui sont engagées pour l'environnement, même un peu, parce que justement ça va amener aussi à pouvoir acheter sans trop de culpabilité. Donc,
pas que des jeunes donc. C'est ça qui est intéressant par rapport à d'autres usages numériques, par exemple.
Non, pas que des jeunes. Et puis, ça permet aussi à des personnes qui, par exemple, ne vont pas habiter dans des grandes métropoles qui étaient l'endroit où il y avait des fripes physiques à pouvoir acheter de seconde main. Donc, ça permet aussi d'avoir accès à la seconde main sur tout le territoire.
Jérôme Fourquet, on entendait parler toujours dans les témoignages à l'instant. On entendait parler de prix, on entendait parler de qualité, de choix. Est-ce que c'est un cocktail, en fait, qui explique le succès de la plateforme ?
Oui, tout à fait. Je pense que le ressort numéro un, quand même, il ne faut pas se raconter d'histoire, c'est quand même le prix. Mmh. Dans l'enquête que vous avez citée, on voit que c'est de loin le premier critère d'achat et de choix pour les Français en achat de neuf ou d'occasion, c'est le prix du vêtement. Et donc, dans le sonore que vous avez passé, on entend parler de vêtements à 3-5 euros. Et donc, on voit que ces prix tout à fait abordables sont un des ingrédients incontestables du sujet, de la plateforme. Le deuxième élément, c'est la diversité de choix. Alors, soit des marques anciennes, comme ça a été rappelé dans le reportage, soit également une grande variété d'offres et de gammes, ce qui va permettre à des gens qui n'habitent pas justement dans les grandes villes, eh bien, de pouvoir accéder à une large palette de vêtements, ce qui ne serait pas le cas dans les magasins physiques. Et puis, il y a également, à côté de l'argument écologique, aussi le côté assez pratique, qui fait que, eh bien, depuis chez vous, vous pouvez commander, vous faire livrer ou aller le récupérer en bas de la rue. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a à peu près 20% de Français qui vendent au moins une fois par mois des objets. Alors, c'est pas uniquement des vêtements, mais des objets sur les plateformes de revente entre
particuliers. C'est une pratique qui s'ancre. Voilà, mais quand vous parlez de prix, d'accessibilité, du côté pratique, parce qu'on commande depuis son salon, Diane Blanchard, on pourrait dire que ça peut marcher partout. Comment expliquer le succès très particulier de la France? Parce que je crois que c'est 30% des utilisateurs de Vinted qui sont des utilisateurs français. Pourquoi ça parle plus, finalement, aux Français?
Alors, je suis pas certaine de pouvoir dire ça. Ce qu'on peut dire, alors, sur peut-être la spécificité française, c'est que les Français peut-être étaient habitués au Bon Coin, qui est le deuxième site de e-commerce derrière Amazon. Donc peut-être que c'est déjà un peu plus ancré dans les pratiques. Après, je pense que ça marche quand même partout. Et je crois que Vinted a aussi pas mal axé ses campagnes de marketing sur la France. Donc voilà, après.
Et donc il y a aussi un aspect marketing peut-être aussi dans ce succès.
Je crois après.
Jérôme Fourquet, vous avez un facteur d'explication là-dessus, pourquoi les Français peut-être plus intéressés, plus séduits par ce modèle?
Alors, mais peut-être aussi parce que ça se développe très fortement chez nous, ce que nous on a appelé l'économie de débrouille. Vous voyez que parallèlement au succès du Bon Coin ou de Vinted, vous avez également énormément d'engouement pour les braderies, les bric-à-brac, les vides-greniers qui reviennent un peu au goût du jour. On en compte 50 000 en France chaque année. Et donc, c'est pour toute une partie de la population, soit le plaisir de chiner, soit plus certainement l'occasion de pouvoir accéder à des biens de consommation à des tarifs défiant toute concurrence et dans un contexte où le pouvoir d'achat est contraint, qu'il s'agisse des plateformes de revente entre particuliers sur le net ou des braderies ou des vides-greniers en physique, eh bien tout ça a trouvé son public et ce sont des habitudes qui ont été prises. On voit aussi, par exemple, comment le cadeau de seconde main est entré dans les mœurs. Ah oui. Près d'un Français sur deux a déjà fait un cadeau de seconde main.
Avant, c'était un peu honteux, c'est ça, de dire voilà. C'est de la seconde main, je l'offre pour Noël.
Et donc, vous avez, si vous voulez, un cocktail qui est à la fois la prise de conscience écologique, contrainte de pouvoir d'achat, et également des outils numériques ou digitaux qui vous permettent de manière très simple de vendre et d'acheter.
Diane Blanchard, ça s'inscrit, c'est vrai, dans peut-être quelque chose de plus large qui est le succès de la seconde main, parce que c'est vrai que Vinted n'a pas inventé la vente entre particuliers. Les brocantes et les puces font ça depuis très longtemps. Mais c'est une tendance de fond, ou en tout cas une retendance, j'allais dire, peut-être qu'on l'avait un peu oublié. Et puis à nouveau, on se dit que la seconde main, en temps d'inflation, c'est une bonne solution.
Oui, complètement. Ça séduit beaucoup. Alors Jérôme Fourquet en a déjà parlé pour tout ce cocktail entre les économies et puis le caractère écologique de la chose. La seconde main reprend aussi un nouveau souffle grâce à ces plateformes de e-commerce qui permettent aussi de rendre cette seconde main plus attractive, plus ludique, finalement, de la démocratiser. Et puis, ça s'ancre aussi dans une certaine culture du réseau social, finalement, parce qu'on va venir avec cette seconde main sur Vinted à scroller sur son téléphone, à mettre des choses en favori, comme on le ferait sur Instagram finalement. Et donc effectivement, il y a un renouveau.
Il y a un côté communauté en fait, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui, voilà. Mmh.
Alors on va aller au standard de France Inter, où nous attend Michel. Bonjour Michel.
Oui, bonjour.
Et bienvenue, je vous laisse poser votre question.
Oui, alors c'est tout à fait intéressant le recyclage des vêtements. Moi je suis tout à fait favorable, mais est-ce que c'est pas une espèce de fuite en avant où on va repartir dans une surconsommation avec des enseignes qui vont, moi je crains la récupération. Et moi j'aimerais entendre parler de sobriété. Avons-nous besoin de 10 paires de chaussures quand une suffit, parce que c'est le risque aussi de retomber dans des excès. Voilà, tout simplement. Hein. Moi, je voudrais entendre le mot sobriété souvent. Hein.
Merci Michel de l'avoir effectivement invité dans ce débat, ce beau sobriété. Est-ce qu'il est compatible, Diane Blanchard, avec la plateforme Vinted par exemple? Acheter de la seconde main, est-ce que c'est forcément être écolo?
C'est vrai qu'il y a de plus en plus de critiques qui émergent à l'encontre de Vinted parce que ça reste avant tout une plateforme et une plateforme qui vise à vendre et à vendre le plus possible. Et donc, ça va favoriser des comportements d'hyperconsommation comme le discount finalement. Hein, on va acheter plus parce que c'est pas cher. Et ça va aussi jouer sur un sentiment d'urgence en envoyant des notifications aux personnes qui sont sur Vinted pour les pousser à acheter. Et donc voilà, c'est vrai qu'il y a quand même des critiques qui émergent là-dessus et des choses qui vont pousser les personnes à acheter. Ça peut être aussi un sentiment de déculpabilisation par rapport à l'achat de neuf, parce que on se dit que là on a le droit, tant sur le plan financier parce que c'est pas cher, mais aussi sur le plan environnemental. À un moment où il y a une anxiété environnementale montante, ça permet de penser se faire plaisir tout en faisant potentiellement ce qu'on croit être une bonne action. Et donc tout ça, effectivement, ça va pousser à consommer, et ça peut potentiellement aussi alimenter les circuits neufs, parce que quand on achète du neuf, on se dit qu'on peut revendre, et que Zara est aujourd'hui la première marque vendue sur Vinted.
C'est intéressant ça, Jérôme Fourquet, déculpabiliser les consommateurs qui ont peut-être le sentiment d'être écolo, ou en tout cas qui ont envie de le penser, tout en consommant peut-être davantage.
Alors oui, tout à fait, c'est tout le paradoxe. Alors il y a à la fois le côté déculpabilisant, il y a également ce qu'on a dit tout à l'heure, la capacité que ces plateformes offre à des ménages, à des publics modestes, d'accéder à des produits auxquels ils n'auraient pas accès. Mais on voit aussi ce que ça produit comme effet du côté des vendeurs et des vendeuses. Une enquête qui avait été faite il y a 2 ou 3 ans montrait que 70% des sommes qui étaient récoltées par les vendeurs ou les vendeuses sur Vinted repartaient en achat de neuf. Mm. Et un des slogans de Vinted, c'était « optimiser votre dressing », c'est-à-dire on fait tourner le stock.
On fait de la place
continuer.
Pour en acheter d'autres, c'est ça.
Oui, et puis on récupère aussi de l'argent ou des liquidités pour pouvoir en acheter d'autres. Et donc on voit bien que, comme le disait votre auditrice, on n'est pas dans une rupture totale avec le modèle dominant, mais dans son prolongement en fait. Et votre auditrice parlait aussi de récupération. On voit comment aujourd'hui, fort du succès de ces plateformes ou de ces vide-greniers, certaines enseignes de grande distribution commencent à tester des rayons de seconde main pour essayer de capter ce marché aussi.
Et j'ajoute ce chiffre que j'ai lu effectivement en préparant cette émission. Vinted expédie plus de 200 millions de colis par an à travers l'Europe. Donc il faut ajouter aussi bien sûr le coût écologique de l'envoi et de la réception de tous ces colis, de tous ces t-shirts, ces chaussures qu'on s'envoie de particulier en particulier. Au standard de France Inter, Isabelle nous attend. Bonjour Isabelle.
Oui, bonjour.
Je vous laisse intervenir.
Oui, alors moi je voulais juste témoigner et dire que effectivement j'achète régulièrement sur Vinted pour des raisons économiques principalement, et puis surtout ça me permet de retrouver des pièces d'anciennes collections qu'on ne trouve plus en magasin pour pouvoir voilà continuer de les porter. C'est notamment pour les enfants qui grandissent, voilà, j'achète souvent une pièce que j'ai beaucoup aimée sur la taille au-dessus pour qu'ils continuent à les mettre.
Vous avez l'impression Isabelle que ce choix là vous ne l'avez pas ailleurs, ou en tout cas pas au même prix, ou pas la même qualité?
Alors pas au même prix, c'est certain. Et aussi pas ailleurs, puisque les collections des magasins changent très souvent et on retrouve pas, alors parfois d'un mois sur l'autre selon les enseignes, mais même ne serait-ce que d'une année sur l'autre, on ne retrouve pas les collections changent.
Merci Isabelle pour votre témoignage. C'est intéressant Diane Blanchard, parce que ça dit aussi que ce modèle, il va devoir peut-être obliger le secteur du prêt-à-porter à s'adapter. Jérôme Fourquet parlait tout à l'heure de ces enseignes qui se mettent à la seconde main, mais peut-être qu'il faut aussi avoir plus de choix, laisser les collections durer plus longtemps. Est-ce qu'il va falloir réfléchir à s'adapter?
Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, dans la fast fashion en tout cas, on est sur des rythmes de collection qui s'enchaînent. Et c'est vrai que parallèlement à ça, il y a aussi un attrait pour des pièces basiques et puis pour une forme de nostalgie aussi, une envie de retrouver des choses, alors dans des époques plus anciennes potentiellement, mais de plus s'inscrire dans le temps court finalement. Et c'est vrai que aujourd'hui, de plus en plus d'enseignes du secteur de l'habillement traditionnel se mettent à la seconde main. Et c'est très difficile pour ces enseignes-là de réussir à développer une offre avec la concurrence de Vinted qui capte en fait l'essentiel de l'offre aujourd'hui.
Sans compter les autres sites de e-commerce, Shein, oui, voilà. Par exemple. C'est vrai, Jérôme Fourquet, qu'on voit que ça se porte pas très bien en ce moment dans le secteur de l'habillement, des liquidations judiciaires, Camailleux, Jennifer, là, le chaussure, des plans sociaux chez CEA, André Pinky. Et est-ce que cette tendance va continuer à s'accentuer? On a le sentiment que les magasins savent pas trop quoi faire finalement face à cette concurrence.
Alors, ce qu'on voit dans l'enquête que vous avez citée tout à l'heure, c'est que les consommateurs continuent de panacher les canaux d'achat, si vous voulez. C'est-à-dire que très rares sont ceux qui ne se fournissent que en magasin ou que sur Internet. Aujourd'hui, c'est les choses s'hybrident. Néanmoins, la part de marché de ce qui est effectué en achat en physique dans les magasins tend à diminuer pour une question de prix qui sont proposés aux clients, pour une question aussi qui est très importante, on l'a dit, de diversité de l'offre, puisqu'on a parlé des collections qui changent, des coloris, mais vous avez aussi dans les vêtements la question des tailles, et vous arrivez en disant, dans le magasin, il y a un vêtement qui vous plaît, mais il n'y a pas votre taille, alors que sur ces plateformes, en général, on trouve ce que l'on veut. Et puis, c'est aussi la difficulté de ces magasins qui sont implantés parfois dans des centres-villes, où l'accès va forcément être très pratique, alors que aujourd'hui les jeunes générations prennent l'habitude de pouvoir commander depuis chez elles, depuis chez eux, et donc il y a tout ce concept du magasin physique qui est aujourd'hui questionné avec une puissance de feu de ces grandes plateformes, tant en promotion commerciale que en diversité de la gamme. Qui produit des effets tout à fait dévastateurs sur les commerces traditionnels.
Et puis ça dit aussi l'importance de l'habillement. Je reprends un chiffre de votre étude, oui. Jérôme Fourquet, près de 4 Français sur 10 se sont déjà sentis jugés sur leur façon de s'habiller ou sur le type de vêtements portés. Ça va pas vraiment dans le sens de la sobriété.
Non, alors c'est statutaire. Hein. Alors il y a un vieil adage qui dit l'habit ne fait pas le moine, mais beaucoup de gens le pensent quand même. Donc vous avez rappelé ce chiffre et il monte même à 6 sur 10 chez les moins de 35 ans, hein, dont on sait qu'ils sont très très représentés sur des plateformes comme Shein ou autres. Et vous avez même un autre résultat de cette enquête qui nous dit que 20% des Français renoncent souvent de temps en temps à rentrer dans certains lieux de peur d'être jugé pour leur tenue vestimentaire.
On comprend donc effectivement.
On voit bien que c'était quelque chose de statutaire. Et donc, capacité de pouvoir s'habiller selon des canons de la mode à prix raisonnable, eh bien, c'est aussi une des clés du succès de ces enseignes.
On va sans doute voir le succès s'accentuer au cours des années à venir. C'est en tout cas ce qu'on peut retenir de notre entretien. Merci à tous les deux, Jérôme Fourquet et Diane Blanchard, d'être passés aujourd'hui dans le 13-14 de France Inter. Place maintenant notre feuilleton une semaine dans la vie de l'ancien député André Chassaigne. Après 23 ans à l'Assemblée nationale, il vient de quitter l'hémicycle pour se consacrer à la vie de sa commune du Puy-Dôme, Saint-Amand-Roche, Savines, 500 habitants. Et l'un de ses combats désormais, c'est de parvenir ou tenter de faire vivre le communisme en zone rurale pour faire face notamment à la montée du Rassemblement national. Et c'est ce que montre ce dernier épisode. Claire Flochel l'a accompagné dans le local communiste de la Fédération du Puy-Dôme.
On va rentrer, d'abord un café, peut-être.
Ah, oh, mais c'est le cirque, ici. Moi qui suis un maniaque. Mais tu ranges plus le bureau.
Donc là, on est
dans le local de la section.
Oui. Bon,
je vais donner ma conviction. Je pense qu'il faut garder un cap. C'est difficile. Et ça ne peut se faire aussi que par une présence. Si on a un local avec des militants, si on distribue sur le marché régulièrement nos tracts, si on a le contact personnel avec les gens, je pense qu'on peut conserver un ancrage. Je crois que c'est extrêmement important. Quand j'ai été élu, c'était socialiste. C'était absolument pas intercommuniste, mais le Rassemblement national a beaucoup monté. En 2022, au second tour, j'ai été élu avec 69% des voix. J'étais déjà horrifié qu'au second tour, j'avais contre moi une candidate Rassemblement National que personne ne connaissait et qui fait 31%. 2 ans après, sur le même territoire, après avoir fait le même travail de député, après avoir gardé l'estime, je crois, de la population, je suis élu au second tour avec 45%. C'est-à-dire qu'en 2 ans, la personnalité que je suis, qui n'avait pas changé, a perdu 14%. Et la même candidate du Rassemblement national que personne ne connaît, qui n'était jamais venue sur le territoire, fait 45%. Et là, j'ai pris ce qu'on appelle une calotte.
Je m'appelle Éric Dubourgnou, je suis maire de Saint-Gervais-sous-Mémont, dans la Vallée, le siège du parc naturel. Et je suis également conseiller départemental du canton des Monts du Livradois. Je suis communiste depuis plus de 40 ans. Il faut être présent et apporter des explications, mais il faut être présent localement, près des gens. Et aujourd'hui, c'est sans doute un des phénomènes de l'isolement qu'il peut y avoir, un sentiment, une forme d'abandon lié au recul des services publics. Et malheureusement, les gens, pour manifester leur mécontentement, et quelquefois, d'ailleurs, il faut le dire aussi, malheureusement, pour partager des orientations portées notamment par le Rassemblement national, votent pour leur candidat. C'est un phénomène qui s'accentue beaucoup en milieu rural. Il y a une forme de colère mêlée à la fatalité qui fait qu'on a du mal à populariser des propositions crédibles et entendues par les gens. Il faut taper sur le clou jusqu'à ce qu'on nous entende, quoi.
Je m'appelle Didier Liénard, je suis retraité d'éducation nationale. Je suis militant communiste depuis 1977. Aujourd'hui, je suis élu conseiller municipal sur une petite commune qui s'appelle Quinya. Le boulot est immense. On n'est pas assez nombreux, c'est notre faiblesse, mais il n'y a rien d'irréversible. Et pour nous, notre force, c'est qu'on est enraciné dans nos territoires et on travaille avec les gens.
Moi, c'est Laurent Barbier. Je suis agent territorial, Parti communiste. Je suis adhérent depuis 1987. Pour être militant communiste, déjà, il faut avoir le moral. C'est un peu compliqué parce qu'on ne va pas se mentir. Il y a beaucoup de jeunes qui ont les idées de gauche vont plus sur la France insoumise, chose qui m'embête un peu aussi, mais bon.
Le départ d'André Chassaigne, comment vous le vivez?
C'est vrai que c'est quand même une perte, quoi. Mais c'est vrai que ça va faire du bien aussi, peut-être à certains jeunes, de voir un plus jeune qui va être sur la circonscription. Ça peut jouer aussi la jeunesse. Ça peut être un bon moteur.
Feuilleton signé Claire Flochel avec Stéphane Ronxin à la réalisation.
France Inter, le 13-14.
13h51, c'est la France. Marie-Luce Ribaud, vous avez fouillé dans vos archives pour nous proposer quelques recettes pour le week-end.
Oui Céline, et aujourd'hui nous allons nous concentrer sur des plaisirs sucrés avec des recettes qui sont l'occasion de faire un petit point d'actualité. Souvenez-vous, en juin dernier, on évoquait l'histoire des chocolats Poulain, alors que l'usine de Villebarou près de Blois était menacée de fermeture. L'espoir alors était très faible de sauver cette fabrique, sa magnifique histoire débutée en 1848 et surtout les 109 salariés qui perpétuaient la marque au petit cheval. Eh bien à la surprise générale, en septembre, la marque Andros est venue au secours de ce chocolat et de l'ensemble des équipes. Cet hiver, la ville a ainsi pu fêter sans larmes le bicentenaire de la naissance de son fondateur, Victor Auguste Poulain.
Alors allons-y Marie-Luce, mangeons du chocolat.
Voici la recette de mousse au chocolat de Thibaut Venier. Il a grandi près de l'usine et est devenu chef cuisinier avec son frère au Diffa à Blois. Faites fondre 200 g de chocolat Poulain avec 30 g de beurre dans 20 cl de crème. À part, mélangez 6 jaunes d'œufs avec 30 g de sucre. Incorporez le chocolat fondu et en plusieurs fois, 6 blancs d'œufs montés en neige avec une pincée de sel. Réservez au moins 2 heures au frais. Au moment de servir une quenelle, saupoudrez d'un peu de piment fumé ou d'espelette et verser un trait d'huile d'olive.
Allez, on change d'ingrédient, on passe au citron.
Avec Julie Monteau, pâtissière à Monaco et ambassadrice du citron de Menton. L'agrume de cette ville frontière avec l'Italie fait à nouveau l'objet d'un véritable culte. Les habitants replantent des citronniers dans leurs jardins en terrasse et la ville a enregistré un bond de 14% du nombre de visiteurs à la fête qui lui était consacrée fin février. Julie nous avait proposé ses cookies acidulés. Mélangez 45 g de sucre roux avec 120 g de beurre mou, une pincée de sel. Ajoutez un œuf de 140 g g de farine, 3 g de levure et le jus de 2 citrons. Formez 20 cookies et formez aussi un creux au centre. Faites réduire les zestes avec la pulpe des citrons coupée en morceaux, avec 150 g de sucre blanc pour obtenir une marmelade que vous déposez dans le petit volcan de chaque cookie. Enfournez ces petits gâteaux seulement 9 minutes à 180 degrés. Une petite bombe délicieuse.
Alors, est-ce que vous avez une suggestion pour le tea time ?
Nous découvrons avec une pointe de malice que la gastronomie britannique existe, qu'elle ne se résume pas à quelques raccourcis nommés jelly, corned beef, gros pois et poulet blême. Elle n'est même parfois pas si éloignée de nos plats traditionnels français. Voici néanmoins le carrot cake que nous avaient confié Marine Cacciaghera et Marine Pourtobord de Very French Beans à Paris. Dans un robot, faites blanchir 5 œufs, le zeste d'une orange, 190 g de sucre vergeoise et 2 cuillères de mélange pour pain d'épices. Ajoutez le jus de l'orange, 210 g d'huile de tournesol et enfin 345 g de farine mélangée avec 10 g de levure chimique et une pincée de sel. Rajoutez 345 g de carottes râpées, versez dans un moule beurré et faites cuire une heure dans un four chaud à 160 degrés. Last but not least, le glaçage. Battez 125 g de beurre doux avec 50 g de sucre glace. Ajoutez sans vous acharner 200 g de cream cheese ou du Saint-Mauré pour qui n'a pas la chance d'avoir un Marks & Spencer au coin de sa rue avec 25 g de miel. Couvrez sur le gâteau refroidi et décorez avec 25 g de cerneau de noix torréfié et dégustez avec votre Earl Grey préféré.
Ah ben voilà qui met en appétit. Merci Marie-Luce Ribaud du quotidien Sud-Ouest. De C'est la France à C'est une chanson et c'est l'humoriste et chroniqueuse Morgane Cadignan que l'on retrouve aujourd'hui à votre micro, Frédéric Pommier.
Morgane Cadignan qui, jusqu'au 25 juin, joue son seul en scène à la Comédie de Paris. Le spectacle s'appelle « La nuit, je mens », titre d'une merveille de Bachung. Et il est également question de nuit dans la chanson qu'elle a choisie, chanson de Petula Clark, « La nuit n'en finit plus ».
Elle surgit quand, je sais pas, je dois avoir 14-15 ans, en voiture avec mon père, en banlieue parisienne du coup, qui écoutait FIP, et il y avait vraiment une espèce de guerre dans la voiture où lui il voulait écouter FIP, moi je voulais écouter mes radios de rap généraliste. Donc on avait un espèce d'accord, une demi-heure FIP, un quart d'heure ma radio. Ce qui est absolument pas égalitaire, mais c'est pas ma voiture, j'ai pas le permis, je paye pas le loyer. Et à un moment, cette chanson, que je trouve folle, je me rappelle qu'il y avait un espèce de soleil d'hiver très pâle sur le périph, un truc d'hyper mélancolique, il allait faire nuit, et j'ai trouvé ça tellement à propos que je crois que c'est le premier souvenir de ma vie où je me suis un peu sentie comme dans une scène de film. C'était un peu la BO de ce moment-là, et c'est la première fois que je me suis dit « Waouh, sur les radios qu'écoutent mes parents, il y a des trucs chambés. » Et ça a commencé une bascule dans mes playlists, qui sont complètement les playlists de mes darons.
Vous parlez de bascule, c'est à partir de ce moment-là que vous intéressez à autre chose que le rap ?
Je sais pas si c'est à ce moment-là que j'écoute autre chose, mais c'est à ce moment-là que je me dis « Ah, tout n'est pas ringard dans ce que eux écoutent sur leur radio à eux. »
Quand je ne dors pas, la nuit se traîne, la nuit n'en finit plus. Et j'attends que quelque chose vienne. Mais je ne sais qui, je ne sais quoi. J'ai envie d'aimer, j'ai envie de vivre. Malgré le vide de tout ce temps passé, de tout ce temps gâché et de tout ce temps perdu.
Et c'est en 1963 qu'est sortie cette chanson, Frédéric.
Adaptation d'un classique du rock anglais. Et j'ai demandé à Morgane Cadignan si elle aussi avait connu des nuits qui n'en finissaient plus.
Quand je faisais des petits boulots plus jeunes où je bossais de nuit, j'étais hôtesse d'accueil ou je faisais des vestiaires en boîte, là pour le coup la nuit n'en finit pas. Parce que c'est long à proprement parler et après, oui j'ai vécu des nuits qui ressemblent à la mélancolie dont elle parle. Alors je sais pas pourquoi, pour moi ça c'est une chanson de nuit d'été. Petula Clark me l'a pas confirmé, mais c'est un truc de rentrer tard un peu tout seul d'une soirée, et puis de pas trouver de taxi, donc de marcher un peu, et puis de croiser des couples qui se marrent, qui se dépêchent de rentrer ensemble, et puis prendre son temps parce que y a pas spécialement quelqu'un qui nous attend à ce moment-là, en n'être pas spécialement triste, mais avoir conscience de sa mélancolie, quoi. Et ça, oui, j'en ai vécu pas mal.
Petula Clark, ici, elle chante vraiment le manque de l'homme qui devrait être avec elle, de son point de vue.
Ouais, mais pour le coup, je sais pas si elle chante l'homme ou un homme. Elle parle pas spécialement, j'ai l'impression, d'une histoire d'amour qui vient de se finir ou qui est terminée. Peut-être qu'elle rêve à quelqu'un qu'elle connaît pas encore. Pour moi, c'est quelqu'un qui est triste, mais qui a conscience que la tristesse, ça dure pas toujours. Que ça passe, que tout passe.
J'ai des idées noires en tête.
Vous aimez bien la nuit ?
Ouais. J'étais très angoissée de la nuit, très jeune. J'ai vu des psychologues pour enfants quand j'étais en Guadeloupe chez ma famille, où la nuit tombe à 18h15, rideau, nuit noire. Donc il y avait vraiment, moi, dès 16h, dès l'heure du goûter, une espèce d'angoisse qui montait parce que je savais qu'il allait faire nuit. Je voulais pas, j'avais peur d'aller me coucher. Et puis j'ai appris à aimer la nuit en vivant toute seule à Paris à partir de 17 ans. Maintenant que je suis adulte, j'ai l'impression que la nuit me protège plus qu'elle me met en danger. Parce que j'ai plus l'impression d'en faire partie et d'être une de ces créatures plutôt que de me faire bouffer par ce qu'on peut y trouver.
Mais petite, vous aviez peur de quoi ?
J'avais vraiment peur de l'obscurité. J'avais peur du silence et j'avais peur que mes parents disparaissent peut-être dans la nuit.
Et vous choisissez cette chanson ?
Bah ouais. Bon, c'est une réconciliation. Je fais un pas vers la nuit.
Et cette chanson, l'affection que vous lui portez, c'est un peu la manifestation de cette réconciliation.
C'est ça. Il fallait juste que le chemin se fasse.
Petula Clark, c'était donc Frédéric, le choix de Morgane Cadignan.
Actuellement à l'affiche de la Comédie de Paris avec son seul en scène, La Nuit, je mens.
Merci Frédéric Pommier. Bonjour Mathieu Vidard.
Chris Rallobière, bonjour.
Au programme de La Terre au Carré.
Hydrologie régénérative.
A tout de suite Mathieu, il est 14h.